Les podcasts du Collège de France, littérature.
Bien. Donc, la dernière fois, nous avions achevé de voir que l'usage que les novas font des cansos est en un sens parallèle à celui que Marie de France fait des les Bretons. Je ne sais pas, il y a un petit écho, non ? Non, c'est... Alors c'est moi qui m'entends moi-même. Voilà. J'ai beau être sourd, j'entends moi. Et en même temps, c'est un usage totalement différent, puisque les novas citent et commentent explicitement les cansos et se présentent elles-mêmes comme une sorte de développement narratif et d'exploitation des problèmes casuistiques en somme qui peuvent être posés par les cansos, tandis que Marie de France, tout en se référant constamment à ces fameux les Bretons, ne les cite jamais, sauf leur titre, et les laisse dans l'ombre. Donc il y a une sorte, elle entretient une sorte de mystère. En revanche, Marie de France ne fait jamais allusion aux troubadours, mais elle les exploite volontiers, et nous l'avons vu à travers l'exemple du surplus d'Anguijmar chez Bernard de Ventadour, en remontant à Guillaume IX, cet euphémisme concret chez Guillaume IX répondant à l'euphémisme du langage chez Bernard de Ventadour. Et ensuite, puisque je n'arrive jamais à faire coïncider les développements avec les heures, j'avais esquissé la question suivante, celle de la situation du salut d'amour entre chanson et roman, le salut d'amour qui adopte le point de vue de la chanson, qui met en évidence le fait que toute canso est un salut d'amour, et qui en même temps a la forme du roman et en même temps adopte le modèle épistolaire. Et je l'aborde à travers un exemple lui aussi archi-classique, celui de l'insomnie amoureuse dans le premier salut d'amour d'Arnaud de Mareuil, et le passage est très connu dans le roman d'Énéas. Nous avons vu la dernière fois que Arnaud de Mareuil connaissait certainement Énéas parce que la façon dont il fait allusion au personnage de la matière virgilienne montre que ce qu'il a en tête, c'est Énéas et non pas l'Énéide, la façon dont il parle de Lavinie. Alors, d'habitude, nous utilisons des transparents. Cette fois-ci, l'assistance a droit à des photocopies, puisque nous aurons à examiner, de comparer de près deux textes assez longs. Donc, au départ, alors je suis là encore confus de citer une fois de plus des textes que tout le monde connaît, il y a les cinq premiers vers du livre 4 de l'Énéide, qui sont tellement connus que c'est ridicule de les citer une fois de plus. Atregina graue yamdodum saukia cura volnus aliduenis et caet cocarpitur igni, multa ueri virtus animo multusque recursat gentis onos. Aerent in fixi pectore voltus verbaque, ne placidam membris dat cura quietem. Et alors, vous me parlez, je passe mon temps à m'exprimer. Là, j'ai mis une traduction à côté. C'est parcement, c'est l'édition de l'Énéide que j'avais chez moi sous la main. C'est la vieille édition avec la traduction de Bélessor qui date d'avant-guerre. J'aurais pu au moins mettre celle de Jacques Perret qui est plus récente. Bélessor, c'est professeur de Cagnes à Louis le Grand et de l'Académie française. Pas exactement résistant au moment où il aurait fallu. Enfin bon, ça va. Bon. Et alors cette traduction est à la fois très fleurie et un peu inexacte, vous voyez, mais la reine déjà gravement atteinte du mal d'amour, Virgile justement n'emploie pas le mot amour, nourrit sa blessure du sang de ses veines et se consume d'un feu secret, le courage de cet homme tant de fois éprouvé et la splendeur de sa race ne cesse de le hanter, ses traits, ses paroles lui restent fixées au cœur et le mal d'aimer, là encore c'est le mal simplement, ne lui laisse ni calme ni repos. Et alors, je suis obligé, vous le savez, de citer, de lire intégralement ces citations, même si ça prend un peu de temps, parce que je pense à la diffusion radiodiffusée, maintenant en podcast du cours. Donc, il faut prendre votre mal en patience, même si vous avez le texte sous les yeux. Donc, dans ce début du livre 4, un seul vers, le dernier, le vers 5, et encore pas tout entier, pour évoquer l'insomnie de Didon, et encore de façon implicite. La pensée qui l'obsède ne permet pas à ses membres de trouver le repos, le mot même de sommeil n'est pas prononcé. Mais voici ce qu'en fait l'auteur du roman français d'Énéas, donc l'un des tout premiers romans français. Et là encore, autre vice, je manque un petit peu à la nouveauté parce que j'avais déjà commenté ce passage dans un article qui est paru dans Romania il y a longtemps. Enfin là, je le reprends dans une perspective assez différente. Quand la chambre fut assérie, retrouvée le calme, Dame Didon mit, n'oublie pas celui pour qui le dieu d'amour l'avait mise en tel fréau, en tel émoi, de lui commence à penser, en son courage, en son cœur, à recorder, à se rappeler son visage, son corps, sa figure, ses dits, ses faits, sa parlure, sa façon de parler, les batailles qu'il lui dit, qu'il lui avait racontées. Ne fut pour rien qu'elle dormît, rien n'aurait pu la faire dormir, tourne et retourne souvent, elle se pâme et étend et s'étire, donc elle se pâme et s'étire, souffle, soupire et bâille, Mout se démente, se tourmente et travaille et se met au supplice, tremble, frémit et s'y tressaille, le cœur lui manque et s'il lui faut, Moult est la dame malt baillie, elle est dans une situation lamentable, et quand c'est qu'elle s'entroublie, et quand elle perd conscience, et nous commenterons ce s'entroublie, ensemble au lui cui de Gésir, elle a l'impression d'être couchée avec lui, entre ses bras tout nu, de le tenir tout nu entre ses bras, elle accole sa couverture, confort n'y trouve ni amour, mille fois baisa son oreiller, tout pour l'amour au chevalier, cuidait que s'il qui erre absent, en son lit, l'y fût présent, elle pensait, elle s'imaginait que celui qui était absent était présent à l'intérieur de son lit, n'y était mis, ailleurs était, il n'y était pas, il était ailleurs, parlait au lui comme se louait, elle lui parlait comme si il l'entendait, en son lit, le tâte et quiert, à l'intérieur du lit, elle le cherche à tâtons, n'est-ce pas, elle le cherche en tâtant dans le lit. Quand elle trouve du poing se fière, elle se frappe de ses poings quand elle ne trouve pas, elle pleure et fait grand deuil, des larmes mouillent son linceul, son drap, Moult se détourne l'héroïne, primes aux dents et puis sauvine, la reine ne cesse de se retourner tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos, ne peut guérir si se démène, Moutrait la nuit à mal peine, elle ne peut s'empêcher de s'agiter, elle passe la nuit dans de cruels tourments. Donc c'est pris de l'édition du roman d'Énéas, d'Aimé Petit, dans la collection Lettres gothiques. Et ça, vous auriez. Le livre est facile à se procurer. En revanche, les Saluts d'amour d'Arnaud de Mareuil, il y a une édition de Pierre Beck, mais qui est très ancienne, qui date de 1961. Et voici ce que dit Arnaud de Mareuil dans son premier Salut d'amour. Là encore, excusez-moi, je dois lire tout le texte. Tot giorn suefre esta battaglia, mais la nuet trac pejor trabalia. Tout le jour, j'endure cette bataille, mais la nuit, pire est mon tourment, car comme soy anats jazer, et que chalcun plaser aver. Et dans certains manuscrits, mais pas dans tous, « Il compagnon dormon trestuit, et res no fain osan bruit, car quand je suis allé me coucher, crois trouver quelque plaisir, et dans certains manuscrits, et que mes compagnons dorment tous, et qu'il n'y a plus aucun bruit, a donc me tor, me volve, me vire, pense et repense, et puis il s'inspire, et puis il se me lévit en saisance, après retourne men jazens, et colbe guillemets sombrel bras d'estre, et puis il se me vire el sénestre, descobre mes soptos amen, puis il se me recobre bel amen. Alors je me retourne et retourne en tous sens, mais je me tourne et roule et vire. Il faudrait le garder comme cela, puisque c'est un souvenir, là encore, de Bernard de Ventadour. Je pense et repense et soupire. Puis je me dresse sur mon séant, ensuite je m'étends à nouveau, je me couche sur mon bras droit, puis me retourne et me couche sur le gauche, je repousse brusquement ma couverture, puis je la remets soigneusement en place. Et quand me soy pro trebayats, je jette de fort, abdos mos brats, et tinc le corps et lui saclis, mas juntas, deves lo peis, ou iusai dona que vos es. Fas la raso, et dans un manuscrit, l'orazon, causir podes. Et quand je me suis bien tourmenté, je tends mes deux bras hors du lit, et les mains jointes, le cœur et les yeux tournés vers le pays où je sais, madame, que vous êtes, je tiens le discours où je fais la prière que voici. Ai bona donna benestans, si vera ja est finamans a son vivent lo jorn il ser, qui a celato per leser, vostre gen cors quend e presan, entre mos bras remir, baisan veis e boc attendos amen, que sol in bai faisam desen, e iei pe gioi. Blasmar, mélaise. Ah, dame de toute perfection, verra-t-il l'amant sincère que je suis avant sa mort, le jour, le soir, ou en cachette, ou tout à loisir, je contemplerai entre mes bras votre corps charmant, inestimable, enfin de prix, hein, en baisant vos yeux et votre bouche, si doucement que de cent baisers je n'en fasse qu'un, et que j'en devienne tout pâle de joie, que j'en blêmisse de joie. Ce n'est pas absolument clair. Martine de Ricker comprenait Blafard blâmé, que je me blâme pour cette joie, mais c'est plutôt pas dire. Et à être dit, masque no pues mais, si n'avait sola et parlate, so quel corps à l'entendre pensat. J'ai trop parlé, mais je n'y peux rien si une seule fois j'ai dit ce que mon cœur pense depuis si longtemps. Quant à être dit, non pues plus dire, mos veis clausans fas un sospir, en sospirant vo endormits, adonc s'en vae mos esperits tot dreitamen donavas vos, de qui veser escobeitos. Cela dit, je ne peux rien ajouter. Fermant les yeux, je pousse un soupir. En soupirant, me voilà endormi. Alors, mon esprit s'en va tout droit, madame, vers vous, qu'il est avide de voir. Nous verrons aussi la suite. Enfin, je ne peux pas lire tout le salut d'amour d'un coup. Et c'est déjà un peu acrobatique de le présenter comme ça. Donc, la parenté des deux développements est si évidente qu'il n'est pas bien nécessaire de s'y attarder longtemps. Encore une fois, il est très probable qu'Arnaud de Mareuil connaissait Énéas, mais ce n'est pas l'essentiel. Et d'ailleurs, les descriptions d'insomnie amoureuse sont très fréquentes dans la poésie élégiaque antique, chez Méléagre, chez Callimaque, étoile du matin aux amoureux cruels, quand j'étais dans ses bras, tu te levais si vite, et là tu tardes tant à venir, etc. Bon. Et aussi dans la poésie médiévale. Pour ne prendre qu'un exemple, encore une fois, un exemple très connu, Chrétien III s'est certainement lui aussi souvenu d'Énéas en décrivant l'insomnie de Sort d'Amour, blonde d'amour, au début de Cligès, je crois que vous l'avez. « Toute nuit est en si grand peine qu'elle ne dort ni ne repose. Amour lia el cœur en close une tension, un conflit et une rage qui molte, lui trouble son courage, qui bouleverse son cœur et qui, si l'angoisse est d'estreinte, qui lui cause tant de tourments et d'angoisse que toute nuit pleure et se plaint et se déjette et s'y tressaute, à poi que les cuers ne lui faute, dans une agitation et des sursauts tels que son cœur est prêt de défaillir. » On retrouve jusqu'aux mots, aux expressions d'Énéas. Chrétien est seulement plus bref et surtout plus discret sur les manifestations physiques et de l'insomnie et du désir qui sont décrites de façon si frappante et même si impudique dans le roman d'Énéas. Mais je reviens à Énéas et à Arnaud de Mareuil. Donc, les manifestations d'insomnie amoureuse sont décrites de façon analogue. L'insomniaque se retourne en tous sens, brutalement. Il cherche en vain une position qui lui convienne. Il ressasse ses pensées. Il soupire. Il est sur le point de défaillir, etc. D'une façon qui est au fond attendue, le romancier français est plus long, plus détaillé, mais il est aussi plus répétitif. Tandis que le troubadour occitan trouve des formules plus ramassées et des images plus frappantes, bien que moins osées. Énéas a besoin de six vers au début pour dire que Didon se retourne dans son lit. Elle se tourne et se retourne souvent, etc., jusqu'à le cœur lui manque et défaille. Et il y revient encore à la fin. Mout se détourne la roïne, prime aux dents, et puis sauvine. Aux deux positions simples, si je puis dire, sur le ventre, sur le dos, Arnaud substitue couché sur le bras droit et sur le bras gauche, une posture plus compliquée, qui correspond mieux à la recherche de la position favorable quand on cherche le sommeil, et il ajoute les mouvements brusques de s'asseoir soudain, de se recoucher, de rejeter, de reprendre la couverture, tout cela dans le même nombre de vers. Et le vers qui sert d'incipit ou d'attaque à toute cette agitation, au lieu d'être simplement tourne et retourne souvent, comme dans Énéas, est un souvenir de l'évocation du temps qui fuit au début d'une chanson très célèbre de Bernard de Ventadour. « Le temps va et vient et vire, Père Jones, Père Mess et Père Hans. Le temps va et vient et vire les jours, les mois, les années. » Mais cette fois, et selon l'usage de cette poésie, le vers est repris pour dire le contraire, que le temps de la nuit est interminable et que ce temps semble arrêté. Et c'est lui, à ce moment-là, qui bouge. Le temps est arrêté, a donc, me torne et me volve et me vire. Mais ces différences d'expression et de style ne sont pas les plus remarquables qui séparent ces deux textes d'apparence si proches. La relation entre l'insomnie et l'obsession amoureuse, l'illusion érotique, le demi-sommeil, la conscience ou sa perte, le rêve, tout diffère alors qu'on a l'impression que c'est presque la même chose. Dans Énéas, Didon, d'abord en proie à l'insomnie, jusqu'à Moult et la dame mal baillie, voit ensuite, sans s'endormir vraiment, sa conscience se brouiller par moments. Et quand c'est qu'elle s'entroublie. Et à ce moment-là, elle sombre dans un délire érotique, en somme. Elle n'est pas réellement endormie, ce n'est pas un rêve, mais elle a l'impression qu'aînée, nue, est avec elle dans le lit, illusion qui a pour effet qu'elle étreint sa couverture, embrasse son oreiller, qu'elle lui parle comme s'il était là, etc. Revenue à la réalité, elle cesse de s'entroublier, elle se laisse aller à la douleur, elle se donne des coups de poing, elle pleure, et elle retrouve l'agitation d'insomniaque du début en se retournant tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos. Et c'est dans ces tourments qu'elle passe toute la nuit, mout très la nuit, à mal peine. Le développement est très précisément le récit de cette nuit tourmentée avec ses épisodes successifs. Et c'est un récit, j'anticipe, mais vous l'avez vu, chez Arnaud de Mareuil, il y a un véritable rêve à la place du délire érotique. Il y a un discours puis un rêve, de sorte qu'il y a en apparence plus de rationalité et en fait, il y en a moins et une sorte d'empilement des strates de la conscience. Mais je vais y revenir. Et en plus, dans Énéas, c'est un récit distancié, comme si un observateur étranger, dans ma jeunesse on aurait dit le narrateur omniscient, tapis dans un coin de la chambre, telle la servante au grand cœur de Baudelaire sortie de sous son humble pelouse, assistait à la scène et interprétait les mouvements désordonnés et les gestes insensés de Didon en y reconnaissant les symptômes d'une conscience non pas endormie, mais égarée par ce délire érotique. C'est un peu, là encore, il a dû s'en inspirer, la situation que traitera Chrétien de Troyes toujours dans Cligès, mais avec un sourire caché, en lui donnant un témoin non seulement dans la chambre, mais dans le lit, non pas à propos de Sordamore, mais à la génération suivante, Cligès et Phénice, dans la personne de Phénice. Vous savez, Phénice doit épouser l'empereur de Constantinople, Alix, mais elle s'éprend, enfin, il y a un coup de foudre réciproque entre elle et le neveu de l'empereur Cligès, qui devrait être d'ailleurs lui-même empereur, Alix est un usurpateur. Elle ne veut pas se trouver dans la situation d'Iseux et que son cœur soit un seul et que son corps soit à deux. Elle va demander conseil à sa suivante, à sa nourrice Thessala, donc qui est une magicienne thessalienne de Thessalie, comme son nom l'indique, qui prépare non pas un filtre d'amour, mais un filtre d'anti-amour qu'on fait boire à l'empereur le soir des noces, et de sorte qu'il a l'impression remplir son devoir conjugal avec sa jeune épouse, alors qu'il s'évertue dans le vide et que dans un coin du lit, elle le regarde à la fois terrorisé et soulagé. De sorte que, alors, on a donc, elle. À la fois la situation est très scabreuse, Chrétien de Troyes, sa façon, l'a décrit de façon beaucoup plus discrète que l'auteur d'Énéas, mais comme si cet observateur qui regarde Didon s'agiter, eh bien là, avec une inversion des sexes, eh bien, c'est Phénice qui est effectivement voit ce qui se passe. Et quant à la demi-perte de conscience, elle s'entroublie, elle s'oublie à demi, ou elle s'oublie un moment, hein, que l'on songe à la perte de conscience dans la jouissance de l'alouette de Bernard de Ventadour, « Qu'est s'oblie de slice à chaser per la douceur qu'al corps li vaille », qui s'oublie et se laisse tomber pour la douceur qui lui vient au cœur. Et cette façon de s'entroublier, cet état intermédiaire de la conscience, généralement provoqué par l'amour. Les troubadours y ont souvent recours. C'est la Dorveille, si bien analysée par Michel Stanesco. Il y a à l'origine, enfin, ce qui leur sert de modèle pour cet état de conscience, c'est une sorte de technique du cavalier qui, pour pouvoir couvrir de longues traites à cheval sans avoir besoin de s'arrêter, somnole sur son cheval sans perdre totalement conscience. Et le rapprochement entre cet état de conscience et certains états provoqués en particulier par l'amour est une source sans fin d'effets poétiques. Et on s'en sert pour décrire, pour peindre aussi bien l'état de la création poétique que celui de l'obsession amoureuse. Fara une verse post-mis sonneil, c'est je vais composer un poème puisque je suis endormi, c'est ça. Mais les troubadours, naturellement, décrivent cet état de l'intérieur, à la première personne, dans la poésie lyrique. Et c'est ce que fait aussi Arnaud de Mareuil, puisque c'est le point de vue du salut d'amour. Et au regard de la scène décrite par Énéas, comme je le disais, on a d'abord l'impression que le troubadour opère une rationalisation. Il décrit d'abord son insomnie, puis le discours, la raso, ou dans le manuscrit G, la prière, l'orazone, qu'il adresse à sa dame, puis l'endormissement qui suit, cette prière l'apaise en quelque sorte, le rêve amoureux qu'il fait dans son sommeil, un vrai rêve dans un vrai sommeil, et enfin le réveil et l'agitation renouvelée. Il faut y regarder de plus près pour voir que les étapes sont moins clairement séparées qu'il n'y paraît. Parce que, justement, ce changement de point de vue, le fait que tout soit vu du point de vue du poète, le regard intérieur et le point de vue subjectif du poète créent un brouillage et produisent des effets et un sens qui sont au-delà du déroulement d'un récit en apparence si proche de celui d'Énéas. Toute la journée, dit le poète, il endure la bataille et les tourments de l'amour. Quand il va se coucher le soir, il espère enfin trouver le repos. Pas du tout, c'est pire. C'est un thème rebattu. D'aquest amor succosiros veian epei sopnian dormen. Je suis tourmenté par cet amour veillant et puis dormant en songe. C'est Geoffrey Rudel. Et puis, bon, il y aurait 50 exemples. Mais regardons le détail. Quand le poète est allé se coucher, au moment, ajoutent certains manuscrits, où ses compagnons dorment tous et où il n'y a plus aucun bruit. Pierre Beck n'a pas suivi cette leçon, bon, c'était pas, il l'a rejeté en apparat critique, mais c'est, enfin, il a bien fait parce que son manuscrit ne la donnait pas, mais c'est une notation qui n'est pas sans intérêt. D'abord, par l'emploi du mot « compagnon », et si l'on songe à son importance depuis Guillaume IX, cette sorte de cœur, de public pour le troubadour ou pour le poète amoureux. Et ensuite, parce que ces deux vers, quand mes compagnons dorment tous, qu'il n'y a plus ni noise ni bruit, eh bien, ces deux vers donnent furtivement, mais fortement, une idée concrète de ce que sont le désir de la femme aimée et le fantasme amoureux vécu au milieu des contraintes d'une vie communautaire et d'une promiscuité masculine. La chambre est sans doute le lit partagé, mais pas partagé avec qui on voudrait. Bon. Bref, quand le poète est allé se coucher, il pense avoir quelque plaisir, que chalken plaisir aver. Quel plaisir, celui du repos, du répit dans ses tourments amoureux, de leur oubli dans le sommeil. C'est ce que laisse entendre la suite immédiate. Il est déçu dans son espoir. Je pense avoir quelque repos, cuidard, comme cuidier en français. Je pense, mais penser quelque chose qui est faux. Ou avoir l'idée qui sera démentie par la réalité. Et au lieu de trouver le repos et le sommeil, il est en proie au tourment de l'insomnie. Mais plaisir est pour ce sens un mot bien fort et pas un mot qu'il est seul employé, qu'on trouve très souvent. Enfin, encore une fois, c'est une situation qu'on trouve souvent. On trouve, c'est généralement le mot employé dans ce contexte, alors qu'on attendrait, je ne sais pas, Heiser, pas Heise ou un mot de ce genre. Plaisir est bien fort, bien actif pour désigner le simple repos du sommeil. Parce que ce plaisir, ce n'est pas le sommeil en lui-même, c'est ce qu'il va retrouver dans le sommeil, c'est-à-dire le rêve et la jouissance de l'illusion érotique qu'il va bientôt décrire. Pour conclure, « Mai volria jausens dormir » que veillan désiran languir. J'aimerais mieux dormir dans cette jouissance qu'éveiller languir de désir. Ce plaisir, pour nous, nous sommes tentés de nous dire que nous voyons ce que c'est et que ça a un nom. C'est bien ainsi que, jadis, René Nelly avait eu la tentation, et peut-être plus que la tentation, de l'interpréter. Et effectivement, c'est un plaisir et il est tout seul, on ne peut pas le nier. Mais on ne peut pas l'identifier à ce que nous appellerions plaisir solitaire, parce que, conformément à la conception médiévale du rêve, sur laquelle je reviendrai dans un instant, seuls La représentation de cela, c'est que seul l'esprit connaît ce plaisir. L'esprit qui, dès lors que la personnalité, que je, que l'ensemble est endormi, l'ensemble corps et esprit s'endort, et à ce moment-là, l'esprit est libéré du corps et il peut s'envoler vers l'aimé dans un rêve amoureux. Donc il y a dans ce plaisir solitaire quelque chose de littéralement spirituel, si je peux dire. Alors ce plaisir illusoire, ce plaisir aigu, ce plaisir décevant du rêve amoureux hante très profondément, c'est vrai, l'imagination des troubadours, depuis les premiers jusqu'au dernier. Et on le retrouvera, je ne donne que cet exemple très tardif, mais c'est un texte à la fois si beau et si célèbre, on le retrouvera au XVe siècle comme incipit et comme terme de comparaison initial chansonnier d'Ozias Marc, vous savez, le grand poète catalan du XVe siècle. Le chansonnier d'Ozias Marc commence par la formule, une formule de comparaison, aussi comme celle que tel celui qui, n'est-ce pas ? Une formule en elle-même troubadouresque. On pense aux chansons de comparaison chez les troubadours et les trouvères, aussi comme Unicorne suit, si vous voulez, chez Thibaut de Champagne, mais comme chez Rigaud de Barbezieux, autre aussi comme l'Olifant, comme l'éléphant, autre aussi comme Perceval, etc. Bon. Mais de façon plus précise, d'ailleurs, par Arnaud de Bareuil lui-même, dans la chanson « Ah, ici comme celle qui t'aime qu'à mort l'oscilla, comme celui qui craint qu'amour le tue ». Et c'est une formule qui ouvre aussi une chanson vraiment admirable, qui n'est pas de sommeil ni de songe, mais d'aube, et d'insomnie en un sens, et d'aube, mais d'aube spirituelle, une chanson aux accents presque dignes de Dante, et que Ozias Marc connaissait bien, parce que c'est une chanson de son compatriote Cerveri de Gironne. « Assi con sel canan era la via que deu tener, quand va abnit escura, tel celui qui en marchant perd la voie qu'il doit suivre quand il va par la nuit obscure, et suit un chemin mauvais, raboteux, qui le retarde, et il ne sait en quel lieu ni sur quel chemin il se trouve, vivant des heures de souffrance dans la crainte de mourir, tel je suis qui ne puis cheminer, je désire voir finir la nuit et que naisse l'aube. » Et c'est une sorte de refrain qui continue dans la chanson, c'est une très très belle chanson. Enfin bref, je reviens à Ozias Marc, excusez-moi, je m'égare. Donc, le premier poème de son chansonnier s'ouvre sur ces vers « Assi con sel che lo somnis delit et son delit de fol pensament ve ne pren a mi quel temps passat me tel imaginar qu'altre be no yabit. » Comme celui qui trouve le plaisir en rêve et son plaisir vient d'une illusion, enfin, traduit illusion, mais vient d'une folle pensée. Et la folle pensée, c'est la pensée qui est folle parce qu'elle est fausse, c'est une illusion. Mais en même temps, pour désigner un amour coupable, au Moyen-Âge, on dit un fol amour. Donc, ce fol pensament qui donne le plaisir du sommeil et du songe est ambigu. Donc, comme celui qui trouve le plaisir en rêve, et son plaisir vient d'une illusion, d'une folle pensée, ainsi de moi, le temps passé m'occupe l'imagination au point qu'aucun autre bien n'y habite. Eh bien, vous voyez que là, au terme, au bout du Moyen-Âge, le génie du poète catalan est de retourner, d'inverser le banal rêve érotique, de retourner la poursuite de son plaisir illusoire en une autre poursuite qui est une recherche du temps perdu. De même, vous voyez l'autre terme de la comparaison, de même que celui qui trouve son plaisir dans l'illusion du rêve, mais les folles pensées du rêve amoureux, eh bien, moi, je suis tout occupé par le passé. Et comment excusez-moi, comment ne pas penser aux premières pages de la Recherche du temps perdu, à l'endormissement du narrateur, à cette femme, dit-il, née d'une fausse position de ma cuisse, à la longue quête déchirante du plaisir qui va suivre, mais tout cela dans le passé, subsumé à une autre quête, d'un autre plaisir, combien plus intense, celui de retrouver le passé. Toute cette œuvre pour raconter cette quête du plaisir jusqu'au moment où il découvre que c'est l'apaisement, il le trouvera dans la quête d'un autre plaisir qui est dans cette possibilité de rendre présent le passé par instant. Bon, je reviens tout de même à notre Arnaud de Mareuil qui finit par s'endormir. Et il finit par s'endormir, mais endormissement et rêve sont précédés et préparés par le discours ou la prière qu'il adresse à sa dame et que nous avons lu. Ses propos, il peut les reproduire, il peut les mettre en relation avec son état intérieur, puisque c'est lui qui parle, c'est lui qui se décrit, et non pas un observateur extérieur. Et après la description de l'insomnie analogue à celle d'Énéas, aux variantes stylistiques près que j'ai signalées, analogue parce qu'elle pourrait aussi bien être faite par un observateur extérieur, il rentre en lui-même, il se place dans l'attitude de la prière, main jointe, ce qui justifie cette leçon, l'oraison d'un des manuscrits, mais le contenu du propos, qui est celui d'une déclaration et non d'une prière, s'accorde plutôt avec la leçon, la raso. Ben, il est vrai qu'oraison peut avoir aussi le sens de discours, donc je pinaille sur pas grand-chose. Et il se tourne vers le pays où se trouve celle qu'il aime, le cor et lui saclis. Deves lo pais oniusse, je sais, donna, que vos es, le cœur et les yeux tournés vers le pays où je sais, madame, que vous êtes. Et c'est là encore un souvenir, c'est un écho au motif très fréquent qui avait été autrefois très bien étudié par Jean-Marie Deur, du vent qui souffle depuis le pays de l'aimé, là, qui est un motif qu'on trouve très souvent chez les troubadours. Il goûte ce vent délicieux qui vient du pays où se trouve l'aîné, ou quelquefois avec un contraste, comme chez Bernard de Ventadour, quand la freie d'aura venta de vez votre pays, vejaire mesque au sente, une veine de paradis, quand le vent froid souffle venant de votre pays, j'ai l'impression de sentir un vent de paradis. Dans ce petit discours nous avons eu que tient Arnaud de Mareuil dans son lit en l'adressant à sa dame vers laquelle il se tourne, ce qui frappe d'abord, si on me pardonne de le dire aussi platement, c'est sa beauté. Et en particulier celle de ces vers « Baisan vei se bocatan dos amen », etc. « Baisant vos yeux et votre bouche si doucement que de s'en baiser j'en fasse qu'un et que je blémisse de joie ». Mais ce qui est surtout remarquable, c'est la fin où le poète reconnaît en avoir trop dit, mais s'écrit qu'il garde le secret sur son amour depuis trop longtemps et il fallait que ça sorte au moins une fois. J'ai trop parlé, mais je n'en peux plus. Alors, le propos n'est pas en lui-même original, bien au contraire. C'est même le sujet fréquent, le sujet de nombreuses chansons de troubadours et de trouvères. « Je ne devrais pas dire ça, mais je n'en peux plus, il faut que ça sorte. » Ou « Est-ce que je me déclare, est-ce que je ne me déclare pas ? Oui, non, etc. » Et je finis par me déclarer et par composer la chanson que je suis en train de composer et dans laquelle je me demande si je dois, etc. Donc, le motif, là encore, est fréquent. Tout est toujours fréquent. Ça. Mais, à la fois, cet aveu n'en est pas un, et c'est un double aveu. Cet aveu n'en est pas un, puisque il est formulé en l'absence de la dame, dans la solitude et le silence de la nuit. Il se tourne vers le pays où est sa dame et il dit, non, j'en peux plus, il faut que je vous dise que je vous aime. Oui, il faut que je vous dise, mais elle n'est pas là. Donc, l'aveu n'en est pas un. Mais pourtant, l'aveu en est un, et même doublement, et parvient à la dame, puisque l'aveu est inséré dans le salut d'amour qui lui est adressé, et qui est, par définition, une lettre et une requête d'amour. C'est une manière de dire que ce qui révèle l'intimité du poète, ce qui constitue l'aveu, ce ne sont pas ces quelques vers, mais c'est l'ensemble du poème et la nature même du poème. Ces vers eux-mêmes sont un transport amoureux, un transport vers le lieu où est la dame, qui sera prolongé par, et c'est bien naturel, par un autre transport, celui de l'esprit en rêve. C'est un abandon au moment où l'amant s'entroublie, mais non pas en perdant, ne fût-ce qu'à demi ou qu'un instant, conscience. L'amant s'entroublie en s'abandonnant ouvertement à la poésie et en s'autorisant explicitement un aveu dans ces vers magnifiques qui viennent conclure le récit de la douloureuse insomnie dont ils sont le produit. La poésie est ici portée par le récit. Elle en est le fruit, pour revenir à notre sujet. Il y a cette sorte de d'éclosion hein, dans le processus de description la nuit douloureuse. L'aveu de son amour, sous la forme de cette déclaration secrète rendue publique par son insertion dans celle qu'est le salut d'amour en lui-même. Cet aveu de son amour est pour le poète un tel soulagement qu'il l'induit au sommeil, qui jusque-là le fuyait. Il ne pouvait pas dormir, il se retournait sur le bras gauche, le bras droit, il repoussait sa couverture, il la reprenait, s'asseyait, il se recouchait, et bien calmement, il se tourne vers le côté où est sa dame, il joint les mains, il tourne les yeux, et sa pensée, et la pensée vers elle, il fait sa déclaration, et apaisé, il s'endort. Alors, dira-t-on qu'il s'en tire aisément ? Voilà, bien sûr, il suffisait de le dire, et ensuite, il dort comme un bébé. Non, parce que l'aventure de cette nuit n'est pas terminée. En dormant, il rêve qu'il se rend auprès de sa dame. Il se rend auprès de sa dame ? Non. Son esprit se rend auprès de sa dame, de qui veser escobaitos, qu'il est avide de voir. Et pour saisir, j'ai déjà indiqué que c'est ainsi qu'il faut se représenter les choses, et pour saisir l'importance de cette nuance, il faut bien saisir l'idée que le Moyen-Âge se fait du rêve. Dans le rêve, le corps est endormi et immobile, l'esprit est éveillé et peut se déplacer seul sans le corps. Pour nous, le rêve est un moment où l'esprit baisse la garde et où le corps peut intervenir dans l'esprit, justement. Mais pour le Moyen-Âge, le rêve est un moment où l'esprit se libère du corps. Et c'est le fondement de toutes les considérations sur le songe et la vision, sur ce qu'on peut en tirer, sur la vérité qu'on peut y trouver. C'est une conception des choses, et ces considérations sont confortées par le célèbre passage de la seconde épître aux Corinthiens, où saint Paul s'interroge de façon insistante, mais sans donner de réponse, sur le fait de savoir s'il a été ravi jusqu'au troisième ciel sans son corps, situation normale du rêveur, ou avec son corps, ce qui serait un miracle et une anticipation de la résurrection, puisque ce sera la résurrection des corps. D'où l'importance des questions réitérées dans ce passage et le fait qu'avec cette apparente modestie et cet orgueil proprement insensé de saint Paul, il suggère que c'était peut-être bien avec son corps, mais qu'il est trop modeste pour le dire. Voilà. Donc, vous savez, toujours, non, je ne veux pas faire mon éloge, mais enfin, s'il le faut, etc. Bon, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui voici 14 ans. Était-ce en son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Cet homme-là fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et cet homme-là, était-ce dans son corps? Était-ce sans son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Je sais qu'il fut ravi jusqu'au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Et donc, c'est cela que le Moyen-Âge a en tête. Et le Moyen-Âge relate volontiers, parmi les mirabilia qui le fascinent, des cas où le rêveur s'aperçoit à son réveil que son corps s'est déplacé en même temps que son esprit. Vous voyez, le rêve, dans le rêve, on voyage librement, mais en esprit. Et puis, il y a des cas où le corps s'est déplacé aussi. Par exemple, dans les Otia Imperialia, les loisirs impériaux de Gervais de Tilbury, Gervais de Tilbury soutient, donc au début du XIIIe siècle, il a écrit cela pour consoler, enfin pour les longues soirées d'hiver du pauvre empereur Othon IV après la défaite de Bouvines. Gervais Tilbury soutient, qui se considère que c'est possible, raconte l'histoire d'une femme dans le royaume d'Arles, où il était, où représentait l'empereur, qui rêve qu'elle voyage dans les airs, et quand elle se réveille, elle est au milieu du... Enfin, pas au milieu, elle se serait noyée, mais enfin, elle est dans le Rhône, et elle est toute mouillée. Donc là, elle s'est déplacée. Mais il est même inutile d'aller chercher ces... Et alors, c'est au milieu d'une discussion sur le fait de ces déplacements, etc. Et c'est inutile même d'aller chercher ces mirabilia. Les expressions dont t'usent les poètes sont en elles-mêmes assez claires. Et je reviens toujours aux mêmes textes qui sont les seuls que je connaisse. Mais rappelez-vous, rappelez-vous pour certains d'entre vous, ces poèmes de Rudebeuf que nous avions commentés il y a 2 ans. Le début de la leçon d'hypocrisie et d'humilité, ou du dit d'hypocrisie. Ce soir, le vin, donc il a bu d'un vin délicieux, ce soir me jeta si souvent, il me jeta tellement sur le dos, que je m'endormis, et que m'endormis n'est-ce le pas, que sur le champ je m'endormis, mes esprits ne dormit pas, un souhait chemina toute nuit, mais mon esprit ne dormit pas, il chemina toute la nuit. Et un peu plus loin, ce soir ne fuit point esperitz, ins chemina mes esperitz, par main leutz et par main pays. Je n'étais pas ce soir-là éveillé, mais mon esprit a cheminé par main lieu et par main pays. Et dans cette sorte de retournement, n'est pas pour le coup de Paulinien, de faire une force de sa faiblesse, l'ivrogne est favorisé d'une vision, justement parce que c'est un ivrogne. Il a tellement bu que son corps est assommé. Et à ce moment-là, l'esprit est libre pour voyager. Ou le début de la voie d'humilité, ou voie de paradis, toujours de Rudebeuf, donc il part de lui à la troisième personne, endormant un songe songea, endormant Rudebeuf fit un songe, or, ohé, ce qu'il songea, que pas du songe ne bourdon, en songeant, écharpe et bourdon prit Rutebeuf, et si c'est se muette, hors chemine, si ne se muette. Donc en dormant, Rudebeuf fit un songe, écoutez donc ce qu'il songea, car sur ce songe, je ne vous dis pas de bourde. En rêve, il prit écharpe et bourdon, le bourdon donc l'écharpe et le manteau du pèlerin, il s'habille en pèlerin, c'est-à-dire en marcheur. En rêve, il prit écharpe et bourdon, Rudebeuf, et se mit en route, le voilà qui chemine, sans bouger d'où il est. Or chemine, sine samuet, la définition du rêve. Donc, Arnaud de Mareuil décrit son rêve de façon analogue. « Me voilà endormi, alors mon esprit s'en va tout droit, madame, vers vous. Le sommeil n'est donc pas l'oubli, mais la poursuite de l'amour par d'autres voies, si je puis dire. Et cette poursuite peut aboutir dès lors que dans le rêve, l'esprit libéré du corps est seul actif. Dans le rêve, seul l'esprit d'Arnaud rend donc visite à la dame. Et il vit si bien une vie autonome de celle de la personnalité complète, corps et esprit, à l'état de veille, quand il dit « je », c'est à la fois le corps et l'esprit, enfin quand tout le monde dit ça. Non et c'est, l'esprit vit tellement bien une vie autonome que, dit le poète, « mon esprit fait avec vous ce que je désire faire, mais ce que je ne fais pas, puisqu'il ne s'agit que de mon esprit, et que ce n'est qu'un rêve. » Ce n'est pas moi le tout, c'est mon esprit. Et vous devez la voir si vous avez la suite. En sospiran vos endormits, adonc sen vae mos esperit stot dreitamen donavas vos de qui veser escobeitos. En soupirant me voilà endormi, alors mon esprit s'en va tout droit, madame, vers vous qu'il est avide de voir. Totena ici, coyeux désir, la nuit, le jour, comme au cossir, à son talen, à vos donneia, embrasse, baisa, emaneia. Comme je le désire moi-même, nuit et jour, chaque fois que j'y pense, il vous fait la cour à son gré, mon esprit, vous étreint, vous embrasse, vous caresse. Perque dures aici, mon sens, no volgre ser, seigneur de rems, mai voldria josens dormir. Que veillant désirant languir. Je n'abrégerai pas cette impression en échange du titre de seigneur de Reims, et j'aimerais mieux dormir dans cette jouissance qu'éveiller languir de désir. Donc, le rêve amoureux ne fait que répéter, mais avec l'illusion de la réalité, ce que la Raso adressée à la dame a exprimé avant l'endormissement sous la forme du souhait et du désir. Oui, et c'est pour cela que je vous disais au début, en apparence, le poème d'Arnaud de Mareuil est extrêmement linéaire et rationnel, plus rationnel même qu'Énéas, puisqu'il n'y a pas cet entre-oubli, n'est-ce pas ? Mais en réalité, il y a une forme de ressac, de ressassement des états de conscience, le discours que l'insomniaque tient à la dame absente, l'esprit qui s'envole jusqu'à elle dans le rêve. Et selon un procédé qui sera très largement exploité un peu plus tard dans la poésie médiévale, la dernière pensée ou la dernière sensation qui précède l'endormissement se prolonge dans le sommeil et détermine la nature et le contenu du rêve. Et donc, le discours qu'il tient à sa dame, la raso, ce discours n'est pas inutile, puisque c'est ce discours qui lui permet, qui non seulement l'apaise et lui permet de s'endormir, mais lui permet de rêver dans son sommeil, parce que la préoccupation se prolonge. C'est quelque chose que j'avais dont je m'étais occupé dans la subjectivité littéraire, et j'avais donné un certain nombre d'exemples, par exemple des poèmes de Vatriquet-Couvin, que j'avais étudié un poème où Vatriquet-Couvin, poète du début du XIVe siècle, contemple un vitrail dans un château, décrit le vitrail, s'endort en contemplant le vitrail, et à ce moment-là, son rêve est à la fois différent du sujet du vitrail et en même temps est inspiré par le vitrail et les personnages qui sont figurés, personnifications qui lui apparaissent, qui s'adressent à lui, etc. Ou bien, ça, j'avais commenté ça dans un article vraiment de ma prime jeunesse. Dans L'amant rendu cordelier à l'observance d'amour, qui est un poème du XVe siècle, qui, enfin le poème lui-même est plutôt ennuyeux, mais le début est extrêmement frappant, qu'à de le dire. Le poète dit, ça commence au son du batoir cliquant d'une très belle lavandière. Au son du battoir, donc du bruit du battoir d'une très belle lavandière, donc, autrefois, enfin, avant les machines à laver, enfin, du temps de la mère Denis, si je puis dire, il y avait, donc, quand on lavait le linge au lavoir ou à la rivière, donc il y avait une sorte de bâtie de bois qui permettait d'entrer un peu dans l'eau avec un petit plan incliné de bois, on étalait le linge dessus et il y avait une sorte de pelle plate de bois avec laquelle on frappait le linge pour décoller la crasse autant que faire se peut. Ça commence par cela, au son du battoir cliquant d'une très belle lavandière. Alors, il a vu la lavandière, elle est charmante, et ce son régulier du battoir l'endort. Et dans son rêve, le son du battoir... Enfin, je le dis de façon très pédestre, c'est dit autrement, mais c'est cela. Dans son rêve, le son du battoir se transforme dans son esprit dans le bruit du vent. Il a l'impression qu'il y a un grand vent et que ce vent l'emporte, le déplacement d'esprit en rêve, et l'emporte jusqu'au couvent d'amour, qui suit la règle de l'observance d'amour, etc., enfin, qui est au cœur de la forêt. L'impression du vent dans les arbres, donc il est dans une grande forêt agitée par un grand vent. Et c'est la transformation du bruit régulier qu'il a endormi d'abord, celui du battoir. Donc, on voit là, si on peut dire, le début, n'est-ce pas ? Mais il y aura une véritable réflexion poétique, si je puis dire, par la suite, de ce phénomène particulier de la conscience. Mais surtout, et c'est ce que je disais, cette répétition produit un effet de piétinement qui reflète l'obsession de l'esprit en proie à l'amour et qui détruit l'enchaînement apparemment bien ordonné des événements de la nuit. Parce que bientôt va survenir une autre répétition. Les pensées de l'insomnie et les pensées formulées dans le discours amoureux entraînent l'endormissement puis le rêve, mais le rêve va provoquer le réveil et le retour à l'insomnie. Mais cette nuit de tourment amoureux et de jouissance amoureuse est si longue, si compliquée, n'est-ce pas, que l'heure n'a pas suffi à parvenir jusqu'à l'aube et que je serai obligé de commenter la fin de ce passage la prochaine fois avec ma courte honte, n'est-ce pas, une fois de plus, d'avoir pas tenu de mon développement dans l'heure même. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.